archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Le peuple du président Oufo-Boigné, pour nous, chef d'État africain, une très grande perte parce que c'était pour nous les archives de toute la colonisation et à l'indépendance. La perte d'Oufo est quelque chose d'irremplaçable.
Si en ce 7 décembre 1993, il déplore, comme beaucoup d'Ivoiriens, la mort de son homologue, Félix Oufo-Boigny, son esprit est surtout occupé par la tempête que traverse son pays. Omar Bongo vient de participer à la première élection présidentielle pluraliste et les premières tendances ce soir ne sont pas bonnes. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Omar Bongo Ondimba. Au Gabon, en ce mois de décembre 1993, le climat est tendu et les populations attendent déjà dans la rue le verdict des urnes.
Au Gabon, une certaine confusion régnait ce matin, au lendemain de la première élection présidentielle pluraliste. Les communications téléphoniques avec le reste du monde ont été coupées pendant toute la nuit, officiellement à cause d'un orage. La Commission nationale électorale n'a pas repris ses travaux ce matin comme prévu, puisqu'elle souhaite ne travailler que sur les originaux des procès-verbaux des opérations de vote. Ceux qui viennent de province n'ont pas encore été ramenés à Libreville, et ceux de la capitale étaient bloqués ce matin à l'intérieur du gouvernorat, un bâtiment encerclé pacifiquement par les manifestants de l'opposition.
Sans attendre que tout le processus électoral se termine, sans trop s'encombrer de la forme, le président Omar Bongo, ou plutôt son administration, va le déclarer vainqueur du scrutin. Ce qui naturellement va provoquer les émeutes dans de nombreuses villes du pays.
Je demande à tous mes compatriotes d'accepter le verdict des urnes et de ne pas causer de désordre. Pour éviter tout débordement, l'état de mise en garde a été décrété et rentre en vigueur à partir de maintenant.
La menace ne fait pas reculer les populations et l'opposition décidée cette fois-ci à ne pas se faire voler sa victoire.
La Cour constitutionnelle a validé les résultats de l'élection du 5 décembre. Le président sortant, Omar Bongo, est élu avec très exactement 51,18% des suffrages devant le père Mbabe Sol, qui toujours selon ses chiffres obtiendrait 26,48%. Onze autres candidats se partagent les 22% restants. Puis l'opposition envisage également de récuser la présidente de la Cour constitutionnelle, considérée trop proche de la présidence.
C'est le bras de fer en ce mois de décembre 1993. Avec en plus le candidat de l'opposition, le père Paul Mbabe Sol, qui se déclare vainqueur et nomme son gouvernement.
Je m'estime comme candidat élu. J'ai nommé un premier ministre, le professeur Pierre-André Kombila, lui demandant de former un gouvernement dont le premier objectif sera d'organiser des élections transparentes.
Cet imbroglio électoral annonce le début d'une crise politique qui va entraîner des violences dans tout le pays pendant des mois. Et cela malgré la proposition faite au père Paul Mbabe Sol de travailler avec le gouvernement.
Je n'ai affaire qu'au peuple gabonais. Le peuple gabonais a exprimé clairement sa volonté le 5 décembre dernier, même si ça n'a pas été suffisamment clair. C'est pour cela que nous disons que pour que ça soit suffisamment clair, il faut recommencer les élections. Mais pour moi, Bongo n'a pas en ligne de compte. Il n'a aucun pouvoir, ce n'est pas le président. C'est les Gabonais qui investissent un président par leur choix. Vous savez très bien que Bongo n'est pas président de la République. Le peuple gabonais l'a rejeté complètement. Au nom de quoi peut-il nous dire qu'il tend la main? Il tend la main à qui? Il tend la main à personne. On lui demande d'obéir à la volonté du peuple, c'est tout.
Le père Paul Mbabe Sol va connaître dans les mois qui vont suivre les foudres du système. Il est même obligé, après des violences sur son domicile et sur les installations de Radio Liberté, de fuir momentanément le pays. Mais comme il sait le faire, le président Bongo va accepter d'ouvrir les négociations en même temps avec cette opposition. Père Paul Mbabe Sol peut revenir au pays.
Nous ne reconnaissons pas la victoire du président Bongo. Nous disons que ça, elle a été truquée, mais le président Bongo s'impose à la tête de l'État par la force. Nous sommes obligés d'admettre le fait, mais entre admettre le phénomène devant le fait accompli, nous n'avons pas des forces pour pouvoir imposer quelque chose au contraire, mais la chose est là, c'est tout. C'est comme si vous êtes victime d'une maladie, bon, vous n'avez pas besoin de... vous acceptez votre maladie, puis c'est tout.
Cette acceptation ne met pas fin aux manifestations et violences. Mais ce n'est qu'une question de temps, puisqu'un bon stratège, le président Omar Bongo va parvenir au bout d'un an à obtenir un arrangement avec l'opposition. C'est ce qu'on va appeler les accords de Paris. Accords qui ramènent une certaine accalmie dans le pays. Omar Bongo peut à nouveau régner. Il faut dire que pendant ce temps, il n'a pas vraiment cessé de se déployer sur le plan international. Il a été présent dans quelques médiations importantes, comme pour le Rwanda en 1994, où il intervient dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA. Ou encore dans les pourparlers de paix entre le président Eduardo dos Santos d'Angola et son frère ennemi Jonas Savimbi de l'UNITA. En cette année 1995, le président Omar Bongo se sent revivre. Surréaliste la situation. Le président Chirac lui présentera, avant promulgation, la liste des ministres de son premier gouvernement. Bongo lui fait ses propositions. Et Chirac en tient compte. Sur les 7 noms qu'il propose à Jacques Chirac, 5 sont 20 ministres. La colonisation semble inversée, comme le fait remarquer Pierre Marion, l'ancien patron des services de renseignement français, la DGSE.
Moi, j'ai déjà arrivé à la conclusion qu'on était même devant une situation de colonisation inversée. C'est la France qui était colonisée par le Gabon et pas l'inverse. Bongo acheté à tout va, enfin, participé à tout va aux campagnes électorales, au soutien de certains candidats.
Casimir Oyemba, ancien premier ministre d'Omar Bongo.
Le président Chirac était un ami, oui, du président Bongo, ça je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer à travers le type de relation qu'ils entretenaient, quand ils étaient ensemble, la manière dont ils se comportaient l'un vis-à-vis de l'autre. C'était vraiment des potes, comme on dit.
Avec Jacques Chirac à l'Élysée, c'est un peu le retour de la grande famille gaulliste avec qui il a des liens privilégiés qui est aux affaires. Omar Bongo jubile.
Et le président français a parlé, c'était le seul qui a parlé de l'Afrique. Comme ce fut le cas à Copenhague, le regretté François Mitterrand avait parlé de l'Afrique. C'est vous dire, monsieur le président, que l'Afrique vous sera toujours reconnaissante. Parce qu'en Afrique, nous savons attacher du prix à l'amitié lorsqu'on nous la donne.
S'il tresse une couronne à son ami Jacques Chirac, c'est parce qu'il est désormais le maître du jeu. Jacques Sall, ancien chef de service secret français au Gabon.
Le président Bongo était chef d'orchestre sur la France-Afrique et il connaissait mieux tous les paramètres que nos responsables des cellules africaines. Et Bongo buvait du petit lait devant leur méconnaissance en leur donnant des leçons.
Loïc Le Floch Prigent, ancien PDG de la compagnie pétrolière Elf.
Il était complètement imprégné de politique française et il donnait des conseils à tous les hommes politiques en disant oui mais bon là si jamais tu fais tu t'orientes là-dedans là tu es cuit, tu vas pas pouvoir te faire élire, voilà comment il faut faire, etc. Donc il était complètement à l'intérieur de la politique française et il soutenait les uns et les autres, il s'amusait, c'était son terrain de jeu intellectuel favori et il connaissait la France électorale depuis 1945 parfaitement.
Son bureau ressemble à une véritable tour de contrôle où il voit tout et observe les acteurs de la classe politique internationale se mouvoir. Il s'informe sur tout, est curieux de tout. Laure Olga Ngonjou, une de ses plus proches collaboratrices.
Dans le bureau du président, il y avait une multitude d'écrans de télévision, de nombreux appareils téléphoniques. Le président s'informait toujours.
Il faut dire qu'Omar Bongo a, avec le temps, avec l'expérience, maîtrisé en bon élève, en observateur avisé, le paysage politique français. Il le connaît mieux que la plupart, même des hommes politiques hexagonaux. Il fréquente la plupart des acteurs, les reçoit, leur donne des cadeaux et des conseils. Il mise sur certains d'entre eux. Et cette parfaite connaissance, il s'en sert pour à la fois influer sur cet environnement, mais également conforter son pouvoir. Il faut dire qu'il soutenait les uns et les autres, sans distinction de famille politique. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1988, malgré ses thèses xénophobes, extrémistes, il va recevoir à Libreville Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National, qui pour les élections effectue une tournée africaine pour récolter un peu d'argent. Dans cette période, les dirigeants africains finançaient sans distinction toutes les mouvances politiques françaises. C'était la consigne non écrite, la règle. S'il tient notamment par l'argent de nombreux hommes politiques français et une certaine presse, dans le même temps, les choses et le monde ont bien changé sur le plan médiatique. Déjà, certains journaux enquêtent sur ce régime, sur ce pays pétrolier dont le chef a résisté à tous les changements. On parle de corruption. Une enquête du Sénat américain sur les comptes d'Omar Bongo est rendue publique. Une enquête à la City Private Bank de Genève, mais également de Paris, de New York, de Bahreïn, de Jersey, de Luxembourg. Des comptes à divers noms qui ramènent au chef de l'État gabonais, avec souvent des chiffres qui donnent le vertige. Il serait passé sur ces comptes entre 1985 et 89 plus de 50 millions de dollars américains. La Reserve Federal Bank of New York va même demander à la Citibank les détails sur l'origine des fonds. L'affaire alimente naturellement la une des médias. Omar Bongo est furieux. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur.
Chez nous, dès lors qu'on voit quelqu'un qui il boit pas, il fume pas, il gagne son argent, il veut faire quelque chose, on dit il est corrupteur, il est corrompu et tout, je ne sais pas qui est corrompu et qui est corrupteur. Il y a sûrement, il y en a.
Vous en connaissez?
Mais je ne vous le dirai pas si j'en connais.
Menace à peine voilée à l'endroit de ses partenaires occidentaux, ceux avec qui il parle de pétrole et d'autres affaires. Combien est-il payé et paye-t-il ses impôts? C'est la question du journaliste.
Il est. Moi, je paye les impôts. C'est retenu d'office.
Tu peux savoir quel est le montant? C'est un secret d'État.
Je ne sais même pas moi-même, je ne sais même pas. J'ignore parfois même si je suis payé.
Ces explications un peu sommaires ne vont pas parvenir, vous vous en doutez, à calmer les esprits. Les parutions se multiplient, décrivant le train de vie des membres de la famille Bongo, les sorties astronomiques de devises à l'étranger, des résidences et hôtels particuliers. Casimir Oyemba, son ancien Premier ministre.
La majeure partie, je crois, des revenus pétroliers qui découlent des contrats qui ont été passés légalement, officiellement, j'allais dire publiquement, entre guillemets, entre le Gabon, l'État gabonais et Total Gabon, la majeure partie de ces choses-là, de ces revenus, empruntent des voies légales, officielles, contractuelles, etc. Mais j'ai dit aussi que, il y a certainement d'autres choses qui, elles, ne passent pas par là. Mais ces autres choses-là, mais nous sommes dans le domaine pétrolier, c'est des montants qui ne se situe pas à l'échelle humaine, je dirais, n'est-ce pas, à l'échelle individuelle. C'est des montants très conséquents.
Le 22 janvier 1997, le père Paul Mba Abessol, l'opposant d'hier, celui qui réclamait la victoire en 1993, est investi à la mairie de Libreville. Père Paul Mba Abessol.
Et puis je suis allé à la mairie. La mairie, je suis élu maire. Une fois, annulé. Deux fois, on voulait annuler. J'ai dit, M. Chirac, qui était président de la République française à l'époque, est intervenu lui-même personnellement pour dire au président Bongo. Ça, je ne le tiens pas de Chirac, mais je le tiens de Bongo lui-même. Il dit, voilà, mon ami Chirac est intervenu pour me dire, laisse Mba Abessol à gagner, il faut le laisser travailler. Et c'est comme ça que je t'ai laissé gagner. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit aussi, Monsieur le Président, que nous soyons clairs. Vous pouvez faire en sorte que j'échoue totalement. Vous en avez les moyens, vous êtes président de la République, pour prouver aux yeux du monde entier que Mba Abessol est un incapable. Mais sachez que si vous faites ça, je suis maire de la capitale du pays que vous dirigez. Et cette capitale va être dans un état tel que c'est vous qui allez avoir honte.
Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B, sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général président et dictateur. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin, le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent a pris une balle, il rentrait visiblement de l'école.
Juin 1997, alors que l'on craignait plutôt l'explosion de Kinshasa, c'est à Brazzaville, de l'autre côté, sur l'autre rive du fleuve Congo, que ça s'embrase. La crise politique sociale qui couvait depuis 1993 a finalement pris une tournure plus dramatique avec cet assaut lancé contre le domicile du président Denis Sassou Nguesso. Mais cette intervention n'a été que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C'est le début de la bataille de Brazzaville. Le président Lissouba accuse Elf de soutenir son adversaire. Elf qui, malgré les scandales qui l'éclaboussent, reste particulièrement puissant.
J'ai compris que ce que voulait-il, que je tombe et que probablement M. Sassou revienne au pouvoir. Bon, mais...
Loïc Le Floch Prigent, le patron de la compagnie Elf d'alors, confirme son implication dans cette bataille. Le président Lissouba n'a pas respecté les accords pris quelques années plus tôt, au début de la décennie 90, qui consistaient en un partage du pouvoir avec Denis Sassou Nguesso.
Lissouba, comme je vous l'ai dit, veut le pouvoir tout seul. Bon, et je ne l'aide pas à avoir le pouvoir tout seul.
Dans cette bataille où les combattants ne maîtrisent pas toujours les raisons et les enjeux, Denis Sassou Nguesso va très vite solliciter la médiation du président Omar Bongo. Médiation acceptée aussitôt par Pascal Lissouba avec la bénédiction de Paris. Situation un peu singulière, un peu spéciale pour le président gabonais, puisque l'un est le père de sa femme Edith, Denis Sassou Nguesso, son beau-père donc. L'autre, Pascal Lissouba, est de son ennemi, un kéké comme lui. Rapidement, devant les échecs des différents cessez-le-feu, Pascal Lissouba n'est plus tout à fait certain de la neutralité du président Omar Bongo. D'autant que des rumeurs disent qu'il fournit des armes à son beau-père et qu'il est du côté d'Elf qui veut en finir avec Lissouba. Il faut dire que le chef de l'État congolais a commis une erreur qui va lui être fatale. Contrairement à Omar Bongo, qui pendant la crise en 1991 s'était contenté de menacer Paris de vendre son pétrole aux Américains, Pascal Lissouba lui est passé à l'acte en le vendant à Oxy, qui lui a prêté 150 millions de dollars garantis par 10 ans de production pétrolière. C'est cet argent qui a servi à financer les législatives qui l'a remporté. Cette décision va être fatale à son régime. Les médiations ne donneront rien. Denis Sassou Nguesso va finalement remporter la bataille avec l'aide des forces angolaises, un autre Eldorado pétrolier où Elf règne en maître. Bongo déplore certes que ce soit finalement la solution militaire qui est remportée, mais à la maison, il est conforté. C'est son beau-père qui redevient le nouvel homme fort du Congo. En cette seconde moitié de la décennie 90, le président Omar Bongo a retrouvé son rayonnement sur le plan international. Il est de tous les rendez-vous, de toutes les médiations. Il voyage beaucoup et tisse une immense toile à travers le monde. Une toile qui surprend lorsque l'on sait la modeste taille de son pays, le Gabon. Libreville est la capitale diplomatique de la sous-région. Et ce n'est pas l'élection présidentielle qui approche qui est son souci, mais plutôt une affaire, un scandale au départ franco-français dans lequel son nom va être cité, qui va venir perturber sa quiétude. L'affaire Elf. Et à cela va s'ajouter celle des biens mal acquis. Omar Bongo n'a pas dit son dernier mot.
Quand j'ai essayé d'écrire un petit bouquin, les Talaros étaient ceux qui ont tremblé.
Blanc comme nègre.
Ah, ils ont tremblé, tout ce monde-là. Mais je n'ai rien dit. Je suis encore prêt à écrire. Alors,
un deuxième tome.
Et pourquoi pas.
On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes. À très vite.
Archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je vous demande de vous associer au vœu du se forment pour un avenir de progrès, de paix, de liberté dans l'union de toutes les forces du pays et dans l'unité de la nation centrafricaine tout entière.
Lorsque le président Bobo tient ses propos en faveur de la paix et pour l'unité à la signature du pacte de réconciliation entre les Centrafricains en mars 1998, il n'imagine pas un seul instant que son pays risque à nouveau l'implosion la même année. Libreville est à ce moment-là la capitale diplomatique de la sous-région. Toutes les médiations, dans les nombreux conflits qui ensanglantent de part en part l'Afrique, sont passées par le Gabon. Les deux Congos, celui de Brazzaville, où le président Sassou Nguesso a renversé Pascal Lissouba après une violente et meurtrière guerre civile, celui de Kinshasa, où le président Mobutu Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga a été chassé par un ancien maquisard, un rebelle, Laurent Désiré Kabila, l'Angola, où il est parvenu à relancer le dialogue direct entre le président Eduardo Dos Santos et son frère ennemi Jonas Savimbi. Même Yasser Arafat, le leader palestinien de l'OLP, est venu le consulter, le voir, solliciter son aide. Bref, le président Omar Bongo semble incontournable, et cela même à l'international. Mais 1998 est aussi pour lui une année électorale. Il doit retourner devant les Gabonais s'il veut être reconduit. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Omar Bongo.
Nous avons nos ministres qui sont ministres des Affaires étrangères et de la coopération. Vous en faites la même chose. C'est très bien, nous prenons acte. Et puis c'est tout. C'est pas les histoires des titres, mais c'est cette coopération. Si elle échange dans le fond et dans la forme, nous prendrons acte, nous aussi, nous changerons. Moi, je vous dis tout simplement, ce sont des affaires françaises du ressort du gouvernement français. Il peut en nommer n'importe qui et appeler les choses comme ils le veulent. L'essentiel est que la coopération continue.
1998, année électorale au Gabon. Quelques mois auparavant, on a toiletté la Constitution. Une révision qui instaure un poste de vice-président et l'extension du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Cette année où va se dérouler la seconde élection pluraliste s'annonce mouvementée. Mais le président Omar Bongo fait mine de ne pas s'en préoccuper. Il poursuit ses médiations et son intense activité sur le plan international, notamment dans la sous-région où il est de tous les rendez-vous. C'est à Libreville que va d'ailleurs se signer le pacte de la réconciliation entre les Centrafricains. Mais la principale préoccupation du moment de Bongo, son souci majeur, est ailleurs. Elle se déroule en France, avec toutes ces enquêtes judiciaires autour d'Elf qui ont amené la juge française Eva Joly à faire saisir un de ses comptes bancaires en Suisse. Omar Bongo est furieux. Furieux que l'on s'attaque ainsi à lui et que l'on viole la règle jusque-là respectée. Celle de ne pas se mêler des affaires pétrolières, de la gestion de cette manne partagée avec Paris depuis des décennies. Il faut dire qu'à Paris, la seconde cohabitation ne facilite pas toujours les choses pour Omar Bongo. Le premier ministre socialiste, Lionel Jospin, à Matignon, n'est pas, contrairement au président Jacques Chirac, très au courant du fonctionnement de ce système de financement et des transactions d'Elf. Il n'est pas non plus un proche du président gabonais, ce qui offre une plus grande marge de manœuvre aux juges qui veulent faire tomber ce système de montage financier occulte mis sur pied depuis des décennies.
Gabonaise de mer, française de paix, elle s'appelle Elf Gabon. Grâce à Elf Gabon, à l'or noir, nous avons eu des hôpitaux, des usines, des routes, des maisons modernes.
Pour l'opposition gabonaise, le moment est venu. Ce scrutin présidentiel de 1998 doit être une opportunité pour en finir avec le président Omar Bongo. Il s'agit de ne pas se faire voler encore une fois sa victoire. Et certains, pour empêcher des fraudes, pour la transparence du scrutin, souhaitent même que l'ONU l'organise. Une idée saugrenue pour le président Omar Bongo, qui ne comprend pas que l'on puisse ainsi brader la souveraineté de son pays. Il faut dire que ce scrutin arrive dans un contexte économique difficile pour le Gabon. Au-delà des recettes pétrolières qui baissent de façon drastique, du bois qui ne se vend plus, de l'endettement excessif, La corruption suscite dans la population de réels mécontentements. La suffisance, l'aisance, voire l'insolence affichée par la galaxie Bongo ne sont pas de nature à susciter l'adhésion de tous. Au sein de son propre camp, on assiste même à quelques défections. Clémence Mézoui, que l'on appelle aussi la grande sœur de la République, fait partie de ses proches qui décident de quitter le bateau.
Et donc, il avait pris l'engagement en 90, 91 et encore davantage en 93, au moment de l'élection présidentielle, de conduire enfin le Gabon vers des lendemains heureux, rêvés par nos ancêtres, comme le dit notre hymne national. Et puis, petit à petit, ça a été pire que ça n'avait été avant 90. La gabégie, la corruption, les prébendes, le tribalisme, la tribalisation encore de l'unité nationale. Les Gabonais ne se sentaient être Gabonais qu'à l'intérieur de leur famille.
Mais ces quelques défections ne sont pas de nature à inquiéter le président Omar Bongo. Des trahisons, des défections, il en a connu. En tout cas, dans son camp, on est serein, on est confiant. Son équipe est tellement animée par la certitude qu'ils vont gagner. Le slogan de campagne l'illustre. Avec Bongo, il n'y a pas match. Dans l'opposition, par contre, ce n'est pas l'union souhaitée. On se déchire, on s'invective. Bien sûr, le camp présidentiel se frotte les mains et participe même à cette division.
Le Rassemblement national des bûcherons a mis en place des structures à visage démocratique où devait régner la démocratie, c'est-à-dire une séparation de pouvoir, de contre-pouvoir et aussi la nécessité de faire élire par la base ses responsables politiques. Nous avons donc évolué ainsi de 90 à 93.
Ce que vous dites, ça signifie qu'aujourd'hui, le parti n'a plus un fonctionnement démocratique?
Voilà, en fait, c'est ça la base du problème.
Donc le premier visé, c'est son président, le père Baba Bessel.
Disons que les structures même, la structure directionnelle du parti, les responsables du parti qui devaient normalement être élus, ne le sont plus. Ils sont maintenant nommés.
Pour répondre à Pierre-André Combila et toujours au micro de Jean-Jacques Louarn, le président du RNB, le père Mba Bessel.
La place du président des bûcherons n'est pas une place bloquée. On y accède après un congrès national. Si le professeur Pierre-André Combila a envie d'être président du parti, c'est tout à fait normal. Il présentera sa candidature, s'il le veut, au moment du congrès national. Mais nous avons décidé de faire des congrès provinciaux pour justement mettre de l'ordre dans le parti, de la clarté, parce que à la suite des dernières élections, il y a eu beaucoup de malentendus entre les militants à l'intérieur de chaque province, et il a fallu que l'on mette d'abord de l'ordre à l'intérieur des provinces. Vous savez, un parti qui réfléchit a toujours des risques de se scinder en deux. J'ai toujours travaillé avec des gens tout à fait raisonnables du parti, dans le sens où on ne créait pas des courants à l'intérieur du parti, parce que justement, une fois on est embarqué dans cette voie-là, on est condamné au bout du chemin à la scission.
Le père Mba Bessel et juste avant lui Pierre-André Combila étaient interrogés par Jean-Jacques Louarn.
L'opposition va finalement se présenter au scrutin en ordre dispersé. En face d'Omar Bongo, sept candidats. Pierre-André Combila, Pierre Claver Maganga Moussavou, Pierre Mamboundou, le candidat du Haut Conseil de la Résistance, le HCR, coalition de l'opposition, et le père Paul Mba Bessel, le maire de Libreville.
Mon adversaire, le seul adversaire, c'est monsieur Omar Bongo.
Que lui reprochez-vous?
Je lui reproche que depuis 30 ans, il n'est pas réussi à faire en sorte que tous les Gabonais aillent à l'école et que le système de santé ne soit mis au point. Tant que nous n'avons pas un démocrate à la tête de l'État, je crois que ça fonctionnera encore comme ça pendant un certain temps. On gagne d'abord par le bulletin, mais pour que la volonté du peuple s'impose, il faudra des interventions extérieures, des pressions extérieures, pour que les choses se mettent progressivement dans l'ordre.
À mesure qu'approche ce scrutin du 6 décembre 1998, où le président Omar Bongo a finalement annoncé sa candidature, la tension monte au sein de l'opposition qui redoute des fraudes. Le spectre des manifestations de 1993 plane. Et le président Bongo n'a absolument pas envie de revivre les émeutes qui ont fait vaciller pendant quelques mois son régime. L'opposition n'entend pas non plus se faire intimidé.
Politique encore au Gabon, où la campagne électorale est décidément très marquée par les questions de sécurité. Les propos de tous bords sont alarmistes et chacun brandit l'épouvantail de la violence. Hier matin, sur RFI, le camp d'Omar Bongo accusait l'opposition de fomenter des troubles. Ce matin, l'un de ses opposants, Pierre Mambundu, président du Haut Conseil de la Résistance, a tenu à réagir à ces insinuations.
Le chef de l'État a sa garde présidentielle composée de mercenaires. Donc lui seul sait la filière mercenaire. Et comme il a beaucoup d'argent, parce que il est chef d'État et que à ce titre il dispose d'un budget important, il remplit toutes les conditions pour être celui qui amasse des armes, que les Gabonais n'oublient pas que le président de la République à l'époque avait dit que si on l'oblige à quitter le pouvoir, on se demandera où se trouve le Gabon. On n'avait jamais oublié cette phrase qui donne froid au dos.
Cette fois-ci, les choses s'annoncent un peu serrées pour le régime Bongo qui ne peut compter sur l'aide de Paris, où l'on ne parle plus de lui qu'en termes de corruption, avec des comptes qu'étalent certains médias, où son nom dans l'affaire Elf alimente les journaux, sans que ses amis puissent cette fois-ci faire quelque chose pour y mettre un terme. Il boudera pour la première fois le sommet franco-africain, le 20e, qui se tient à Paris, au carrousel du Louvre.
D'abord, j'étais surpris d'entendre RFI, toujours RFI, dire que je boude
RFI.
Les sommets. RFI.
La radio.
La radio, dire que je boude les sommets. Je ne les boude pas. J'ai fait comprendre mon point de vue. J'ai dit qu'il y a des pays francophones et il y a des pays anglophones. Et que lorsque on va au Commonwealth, nous ne sommes pas invités.
L'élection présidentielle qui se tient ce 6 décembre 1998 est comme la précédente sous haute tension. Des juristes français, sans être mandatés par un quelconque gouvernement, sans prévenir leur hiérarchie, ont décidé de voler au secours de l'opposition en contrôlant sur place la transparence du scrutin. Ils jouent les observateurs internationaux. Et comme il fallait s'y attendre, les irrégularités sont nombreuses. Père Paul Mabessol.
La première impression, elle est très mauvaise. À 13h, j'entre dans le bureau de vote avec ma carte d'électeur et on regarde les listes. Je ne suis pas sur la liste électorale. Un candidat passe sur une liste électorale. Le maire de Libreville passe sur une liste électorale. Le plus grave, la chose, c'est que moi, j'ai pu m'imposer. Mais imaginez-vous, les gens simples des quartiers, ils seraient sortis découragés.
Malgré ces irrégularités, malgré les protestations qui vont se multiplier, le président Omar Bongo est déclaré vainqueur dès le premier tour du scrutin.
Il n'y aura donc pas de second tour pour la présidentielle au Gabon, d'après les chiffres fournis cette nuit par le ministère de l'Intérieur. Omar Bongo retrouve son fauteuil avec une confortable avance. Le président sortant est en effet crédité de 66,55% des suffrages. Dans l'opposition, c'est le chef de la coalition du HCR, Pierre Mambundu, qui arrive deuxième avec 16,54% des voix. Le père Abessol, pour le Rassemblement national des bûcherons, obtient lui 13,41% des suffrages.
À Libreville et dans tout le pays, encore une fois, l'opposition dénonce le hold-up électoral. Pierre Mambundu, arrivé en deuxième position, présente à la presse des centaines de fausses pièces d'identité ayant servi au vote des étrangers. Pour démontrer l'irrégularité du vote, il fait remettre aux observateurs internationaux 400 faux passeports saisis par les brigades antifraude qu'il avait mis en place.
Nous ne pouvons pas accepter ces chiffres, qui sont des chiffres trafiqués dans la mesure où nous savons que les chiffres qui sont sortis des urnes sont les suivants. Pierre Mambundu, 56%, et Omar Bongo, un peu plus de 20%.
Vous n'avez pas apporté les preuves de ces résultats?
Je n'ai pas apporté les preuves de ces résultats, mais je les ferai publier en temps opportun.
Quoi qu'il en soit, Omar Bongo est reconduit pour 7 ans cette fois-ci à la tête de l'État gabonais. Cette année qui s'annonce mouvementée au regard des plaintes, des procédures judiciaires dans lesquelles l'on cite de plus en plus son nom. Des juges ont décidé de faire la lumière sur les comptes d'Elf. Et comment parler de la compagnie française, cassette de la République mise sur pied par le général de Gaulle, qui a servi à financer tellement de campagnes de différents partis et hommes politiques français pendant tant de décennies, qui a permis d'acheter des armes pour tant d'opérations, qui a nourri de nombreux réseaux, sans éclabousser celui qui en est désormais le principal acteur. surtout que certains anciens patrons de la compagnie ont décidé de se mettre à table. Sous la pression de la justice, ils parlent. Ils parlent de comptes disséminés sur la planète. Ils parlent d'appartements, de résidences achetées ça et là pour telle ou telle personnalité. Les révélations se multiplient et le président Omar Bongo, nommément cité, menace de parler à son tour, de faire sauter la 5e République française.
J'étais, franchement, laissez-moi même rire, à la fois heureux, que j'étais aussi riche. Et je demande donc à M. Talaro de bien vouloir me faire parvenir les sommes d'argent dont j'étais le destinataire et qu'il aurait donc détourné. Parce que c'est bien beau de parler, bongo, bongo, bongo. Pour le moment, j'ai gardé mon calme, mon silence. Et comme je l'avais écrit quelque part, que de toutes ces histoires, je ne connaissais rien.
Dans les mois qui vont suivre, la justice va faire parler beaucoup de monde, même les plus taciturnes. Il n'est pas certain qu'Omar Bongo continue de garder son calme dans ce qui est considéré comme l'un des plus gros scandales financiers de l'après-guerre. Et puis le chef de l'État gabonais doit également faire face à une autre rumeur qui enfle dans la presse. Il serait malade. Se pose alors la question de sa succession. Pour lui, il n'est pas malade du tout et la succession n'est pas à l'ordre du jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler dans la dernière partie de cette saga Archives d'Afrique spéciale Omar Bongo. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site du RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite et la fin de la saga Archives d'Afrique spécial Bongo, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes du RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.